With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans Wheel of Series, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé sur vos sites de streaming préférés, le tout sur Wheel of Cinéma. Au menu du jour, une nouvelle décennie à Buckingham, une nouvelle locataire au 10 Downing Street, une nouvelle arrivée dans la famille royale. The Crown, saison 4, disponible sur Netflix, sera débattue avec distinction aujourd'hui. Lady Kenson du domaine de Picardie est prête, enfin je crois.
Hello.
Bonjour Perrine. Hello Perrine. And Lord Crow Windsor ex Spencer est prêt à en découdre, mais de manière feutrée, comme il se doit.
Évidemment, j'ai ma cup of tea, ça ne se voit pas, mais j'ai ma cup of tea.
J'ai eu très peur de la fin de cette phrase. Je reste bien feutrée. Wheel of Series, c'est parti. Virgule.
La virgule de Wheel of Series. Da, 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 da.
Peter Morgan, scénariste, showrunner, on fire, The Wonderful Olivia Colman et Elizabeth pour la dernière fois, introducing Emma Corrine dans le rôle de Diana et la nouvelle prime minister, une dame de fer, Margaret Thatcher, et incarnée par Gillian Anderson, extrait.
Your Majesty, I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions, woman to woman. We are the same age after all.
Really?
Just 6 months between us.
Oh? And who is the senior?
I am.
Commençons par ces deux-là. Deux rigidités se confrontent, s'affrontent. La royauté et la poigne dans un boys club. On commence par ces deux-là.
Oui.
C'est le morceau attendu.
Ben oui.
La dame de fer versus Elizabeth Gillian Anderson versus Olivia Colman.
C'est un peu Perrine et moi, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis un peu tout en Diana, tout en douceur, tout en légèreté.
Non, j'ai dit Margaret Thatcher versus Elizabeth. Tu ne commences pas à partir sur Diana, en fait. On va essayer de rester un peu...
Oui, je suis façon Diana, quoi. Moi, je suis Diana, je suis... Voilà. Ben, la reine, c'est moi, évidemment. Hein. C'est-à-dire vraiment la solidité, la structure, la personne stable. Et puis, bah... Perrine, c'est les tailleurs, c'est la choucroute, c'est tout ça, quoi.
C'est le nez crochu, c'est la mue, quoi. La mue, pas la mue.
La mue également.
elle mue un peu, hein, Margaret Thatcher, finalement.
Très attendu, en plus, le personnage. Ça fait quand même, depuis le début de The Crown, on se dit vivement qu'on y arrive, quoi. Enfin, tout le monde l'attend, cette décennie, fin 70, début 80, avec ce que ça implique. Et alors, chose très étrange, moi, ça m'a fait le même effet que sur le début de... J'ai pas de passion particulière pour la royauté ni pour cette reine. La saison 1 de The Crown, t'as quand même un peu d'empathie pour cette jeune femme qui va se retrouver propulsée dans un univers absolument atroce. Je trouve que presque, hein, on va pas non plus refaire l'histoire, ils arrivent presque à faire de Thatcher un personnage pas si antipathique. Cette espèce de femme noyée dans le boys club, malgré les épaulettes, malgré le... Mais voilà.
Alors, ils arrivent à trouver quand même une belle... j'ai envie de dire, ils prennent une belle courbe. C'est-à-dire qu'à la fois, ils font quand même état de sa politique très, très rigide. Elle, aussi, un personnage très, très rigide.
Ouais.
On a un épisode génial où elle va à Balmoral, faire le fameux test de Balmoral, et on s'aperçoit de toute la rigidité de ce personnage aussi, qui n'est pas prête à faire beaucoup de concessions. Et en même temps, oui, on la montre sous un côté maternel, mais je trouve qu'ils ne sont pas très tendres avec elle du tout non plus, parce que finalement, on a ce personnage où elle dit qu'elle n'aime pas les femmes parce que les femmes sont trop émotives. Mmh. Finalement, ils font presque une jonction dans la série où à la fois la disparition de son fils et la guerre des Malouines sont liées, quoi. En gros, c'est parce qu'elle était terrorisée de la perte de son fils qu'elle déclare la guerre à l'Argentine. Donc finalement, je trouve qu'ils ne sont pas du tout tendres avec ce personnage, même si...
Non, même pas si, tendre.
Voilà, ils sont un peu plus nuancés, on va dire.
Ouais.
Peter Morgan, il n'est jamais là où on l'attend, en fait. C'est ça qui est assez brillant dans son écriture, parce qu'on l'attendait évidemment très virulent, très méchant sur Thatcher. Et au fond... Tout ça a déjà été raconté, tout ça a déjà été fait. La Dame de Fer, le film de Philippa Lloyd avec
Renaud.
Meryl.
Renaud, pardon, évidemment.
Excusez-moi. J'allais faire Pierre Bachelet, petit bonhomme, ça n'avait rien à voir. La Balade des gens heureux non plus.
Finalement, le portrait est inattendu en ce sens où il est beaucoup plus nuancé que ce qu'on aurait pu faire, je trouve.
Je sais pas. Alors, il est vraiment. Il y a un épisode qui est vraiment très anti-Thatcher, qui est l'épisode assez incroyable sur un personnage qui rentre dans le palais et moi je trouve très fort, c'est en un seul épisode, au fond Peter Morgan raconte ce qu'est l'Angleterre de Thatcher, la violence, le désespoir. Évidemment que si on attend de The Crown une sorte de radiographie de l'Angleterre des années 80, c'est pas exactement ça, parce que c'est du point de vue du palais, et on est à l'intérieur du palais, et au fond on voit bien à quel point la société, la ville, les gens ne viennent que par écho en fait dans ce palais, et ça c'est assez beau.
Pas par écho, par intrusion en fait.
Par intrusion, là, littéralement. Il y a la télévision.
Par écho, parce qu'on s'aperçoit du décalage de la famille royale avec le peuple anglais, puisqu'à un moment donné, on lui parle de Billy Joel, de Uptown Girl, elle est là, oh, pardon, qu'est-ce que c'est, elle n'est pas du tout en lien avec eux. Et en même temps, il y a encore cet épisode de Balmoral où ils vont faire les fêtes avec les autres Écossais, où on s'aperçoit qu'ils ont des plaisirs, finalement, assez proches. Du peuple, donc il y a ce décalage là, mais en même temps non, en effet c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est jamais vraiment du point de vue du peuple anglais, donc on est toujours du point de vue de comment cette royauté va prendre cette Angleterre des années 80.
La télévision, moi je trouve que c'est une idée qui est magnifique, notamment qui était déjà dans la saison 3 et là vraiment dans la saison 4. La reine, elle passe son temps à mater la télé, c'est-à-dire qu'elle regarde la télé, elle regarde ce qui se passe, et elle est autant à la fois actrice que spectatrice, et ça c'est vraiment très beau. Je trouve que ce que fait Gillian Anderson est assez brillant, parce qu'elle arrive dans le premier épisode, quand on la voit arriver, on se dit la vache, on va être vraiment sur une Patrick Sébastien grand bluff total avec du cheveu, de la dent, du machin.
Le début est compliqué.
Ouais, le début est compliqué. Et puis, il y a un truc qui glisse. C'est-à-dire que c'est comme si elle nous disait voilà l'image que vous en aviez, c'est une sorcière, c'est vraiment. On est dans Magicien d'Oz, hein. Vraiment, elle arrive. Moi, j'ai vraiment pensé à la sorcière de l'Est du Magicien d'Oz. Et petit à petit, en fait, il y a un truc qui se met en place où elle se met à devenir un vrai personnage et pas une caricature. Et notamment la fin magnifique.
Par le même glissement que les autres personnages, c'est-à-dire par la confrontation de la sphère privée et du devoir public, en fait. C'est là qu'elle devient à peu près...
C'est le grand sujet de The Crown, hein. C'est vraiment le rapport entre le devoir et le désir. Et ce qui est intéressant, c'est de l'avoir traité également pour Thatcher. Parce que c'est pas un personnage sympathique, et c'est un personnage dont les convictions sont évidemment très problématiques et même assez insupportables. Mais en même temps, la série montre qu'elle joue son rôle, en fait. Et ça, c'est très beau.
Il y a un truc très amusant aussi, c'est que ces deux femmes qui ont à peu près le même âge, à 6 mois près, elles se le disent, elles ont vraiment
le même
âge.
C'est la confrontation.
Et en fait, c'est assez rigolo, parce qu'au départ, elles arrivent vraiment en espèce de confrontation. Donc évidemment, Margaret Thatcher va faire la révérence à la reine, mais elles se tiennent toutes les deux aussi droites, comme des piquets face à l'autre. En fait, il y a vraiment ce truc-là. Et au fur et à mesure de la série, plus ça va, plus Thatcher ploie, en fait, plus elle ploie physiquement. Il y a son corps qui se penche, sa tête qui se penche de plus en plus. Et en fait, elle devient écrasée finalement par le pouvoir,
la
couronne, mais aussi le pouvoir qui lui est incombé en tant que première ministre, en fait, finalement. Elle ploie finalement sous tous les ragots, sous la difficulté, là où la reine ne ploie littéralement jamais. C'est le seul personnage, en plus de, qu'on pourrait le dire pour tous les autres personnages, mais c'est littéralement le seul personnage, la reine, qui ne ploie pas.
Mais qui ne fait jamais la révérence.
D'une, elle ne fait pas la référence, mais même physiquement, elle se tient toujours très très droite. Elle n'a pas ce truc penché comme tous les autres que tous les autres personnages ont.
C'est très juste ce que tu dis, et du coup, ça va me permettre de faire la transition que vous attendez, que vous avez amorcée. Il est dit de Diana dans cette saison que si elle ne plie pas, elle va rompre à un moment. Et le vrai personnage tragique, c'est elle dans cette saison.
Et je me permets de citer un camarade qu'on aime bien ici, Romain Burel, qui disait hier à quel point dans The Crown, les révérences étaient des métaphores de la fellation.
Tout
et franchement, une fois que vous avez cette idée-là en tête, vous ne regardez plus la série de la même manière. Merci Romain.
Donc Diana, vous l'attendiez.
Oh là là.
Elle est là.
C'est un morceau. Hein.
C'est vraiment une saison. Alors, ça n'a jamais été très facile pour les femmes hein, dans cette série, soyons d'accord. Mais là, je trouve qu'on prend un degré sur le « Hey les gars, être une meuf, où que ce soit, c'est vraiment pas la teuf. » Là, elle, c'est...
Ah bah, on l'a pas dit, mais si vraiment vous pensiez que The Crown saison 4, c'était votre petit « cheer up », quoi, votre petit moment joyeux de confinement, pas du tout. Hein. C'est vraiment une saison sordide.
C'est la tragédie. C'est vraiment...
Tragédie totale. Mais la tragédie, en plus, feutrée, comme tu dis. C'est-à-dire que tout se fait dans des alcôves, dans des scènes assez simples, assez banales, et tout passe par une espèce de choc intérieur. Alors, Diana, moi, je trouve le personnage étonnant parce que c'était vraiment le point épineux de la série. Et d'ailleurs, les Anglais sont assez étonnés de la manière dont elle est présentée. On sait, donc, la couronne est furieuse de... Là, ça y est, ils ont réagi pour la première fois quasiment à la série en disant que c'était un scandale, que... Enfin, en tout cas, il y a les ragots qui veulent dire que... C'est un scandale, qu'ils sont très heurtés par la façon dont l'histoire de Diana est représentée. Et en même temps, on ne peut pas accuser Peter Morgan de prendre parti. À la fin de la saison, je ne sais vraiment pas si Diana est une oie blanche complètement victime ou si c'est un personnage au fond un peu stupide, un peu qui n'a pas compris où elle mettait les pieds et qui a rêvé, qui a eu les yeux plus gros que le ventre, si on peut dire. Hein, voilà, pour résumer.
Et qui a même manipulé un petit peu sa place pour y arriver, parce que clairement, elle, au début, on a l'impression qu'elle manœuvre quand même pour arriver. Philippe manœuvre de fou. En tout cas, elle danse beaucoup. Mais
Elle prince Philippe manœuvre.
Oh my God.
Rajoutez un jeu de mots, vous aussi. Elle prince Albert Philippe manœuvre.
Non, trop. Très gênant, surtout.
Ouais. Ouais.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, cette histoire-là de Diana, on l'attendait tous, parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup plus, nous, maintenant. Maintenant, ça y est, on rentre dans une partie de l'histoire de The Crown
qu'on connaît
un peu plus. Et donc, on est tous là avec nos...
C'est que les gens existaient avant toi, Périne, que les gens connaissaient l'histoire avant toi.
Personnellement, je ne le pense pas. Mais voilà.
En fait, d'ailleurs, ne dit-on pas en l'an 1 après Périne Kenson.
Évidemment.
Ah bah, voilà. Avant PQ, un, après PQ.
Ça
marche aussi pour 2020. Mais l'idée, c'est que voilà, en fait, on est dans une décennie qui commence vraiment à faire écho, où on a tous un avis très très fort, et la série ne fait pas comme si c'était pas le cas. Elle fait pas semblant, en fait. Elle sait très bien qu'on connaît, elle sait très bien, et donc elle nous montre pas finalement ce qu'on attend. On attend le mariage de Diana, on ne le verra pas. Elle nous montre finalement tout l'envers du décor, elle nous montre tous les à côté, tout ce qui a servi à fomenter, comment dire, la légende Diana. Et finalement, tout ce qui ne sont que les bruits de couloir. C'est une série de bruits de couloir. C'est une série, finalement, qui raconte la pipolisation encore plus de la couronne.
Et en même temps, cette pipolisation, il ne la raconte pas de l'intérieur des tabloïds. Parce que les tabloïds, on les voit très peu, au fond. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois qu'elle montait dans une voiture, j'étais là, mais non, Diana, attention, le tunnel. Bon, voilà, mais ça, c'est parce que moi, je suis un peu dingo. Mais oui.
Non, vas-y, termine.
Non, mais parce que vraiment, il y a un truc où évidemment qu'on projette sur ce personnage sa mort tragique qu'on connaît tous.
Bah, évidemment.
Et donc, il y a cette scène terrible où elle est en voiture avec ses gamins en train de chanter. Alors, les gamins, les petits choux, William et Harry, on est là, mais c'est des petits choux, ils sont trop mignons. Enfin, voilà. Et moi, vraiment, j'ai été assez ému par la façon dont la série, justement, cherchait à déconstruire le personnage. Son arrivée en espèce de petit elfe du songe d'une nuit d'été est un moment très étonnant, très beau. Cette scène de roller. Sans trop spoiler, il y a une scène de roller dans Buckingham qui est mais phénoménale. Parce que ce que ça nous raconte et ce que commande Peter Morgan, c'est au fond, Diana est une adolescente. Mmh. Est une adolescente, mais même pas au sens péjoratif du terme. C'est un personnage qui est plein de vie. C'est la vie qui rentre dans Buckingham. Et il y a ce côté, Buckingham est un mausolée, et elle arrive, et elle veut aller danser, elle veut faire la fête. C'est une jeune fille des années 80.
C'est très intéressant, parce que c'est une adolescente qui va se retrouver à pas du tout un adolescent, à un enfant capricieux, en fait, qui a passé toute une période à bouder, parce qu'on lui a pas laissé se marier avec la femme. Bon, alors je sais, c'est tragique, mais il est quand même présenté sous un jour de sale gamin capricieux boudeur, Charles. C'est d'abord je boude parce que je peux pas me marier avec qui je veux, et après je boude parce que ma femme, elle est trop populaire, quoi. C'est quand même vraiment le... Ah, bah, moi, je boude.
Oui, en même temps, on comprend.
Oh non, mais il est sale gosse, il est insupportable. Après, et en même temps, il est deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois, il a un comportement de petit bonhomme vraiment très, très chiant.
Petit bonhomme.
Et en même temps, voilà, c'était pour ta petite référence à me vacher. Et en même temps, c'est un vieux monsieur. C'est tellement un vieux monsieur dans sa tête en permanence, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il est, il a skippé l'adolescence. L'adolescence.
Il a skippé le kangourou, c'est ça, Perrine, tu veux dire. Non, mais je suis d'accord, Perrine. Sauf que moi, je trouve que ce personnage, il est pas complètement condamnable parce que c'est quand même un personnage tragique. C'est l'histoire de quelqu'un.
Non, on a pas dit qu'il était condamnable. On a dit qu'il était chiant.
Oui, c'est une condamnation. Non, mais il y a quelque chose quand même dans ce personnage. En fait, il vit exactement la même chose que vit qu'a vécu sa mère, mais sans avoir le pouvoir. Et ça, c'est magnifique. Il y a une scène qui est terrible au milieu de ses frères et sœurs où il y a le mariage de Andrew et il y a toute une scène où en fait la reine a pris tout devant et le gamin dit mais que fait maman? C'est horrible. On devrait parler que de mon mariage. Et Charles répond, parce que ça n'intéresse personne, le mariage d'un type qui sera, je sais pas, huitième accès à la couronne. En fait, Charles, la couronne devient une sorte de poison et devient, quand il prend la couronne en main, tout d'un coup, eh ben, il devient comme sa mère, il devient complètement droit, comme si cette couronne les rendait inhumains. Et cet épisode terrible sur les héritiers.
C'est le Seigneur des Anneaux.
C'est ça.
C'est Gollum.
Gollum. Et Gollum, c'est Thatcher. Putain, c'est ça, en fait.
Non, Gollum, c'est Charles pour moi.
C'est trop le Seigneur des Anneaux, c'est un rip-off. Non, mais cet épisode sur la reine qui va voir ses enfants pour savoir s'ils sont, comment ils vont, je crois que c'est un des épisodes les plus terribles de la série. C'est vraiment un épisode central où en fait, elle se rend compte que tous ces gamins sont totalement malheureux.
Mais je suis d'accord avec toi sur le pouvoir, c'est-à-dire qu'en même temps, à ce niveau-là, Charles est très proche, et c'est pas pour rien qu'il soit aussi proche de la princesse Margaret, en fait. C'est-à-dire que Margaret...
Ah, je me disais, vous n'avez pas encore parlé de votre préférée depuis le début.
Oui. Margaret subit la même chose, d'une certaine façon. Elle est empoisonnée par ce pouvoir, elle est écrasée par ce pouvoir, mais elle ne l'aura jamais, en fait. Elle ne va faire que en subir les conséquences, mais jamais en avoir peut-être le prestige et même l'usufruit totalement, quoi. Donc, en fait, elle s'ennuie, et c'est un personnage qui était déjà tragique depuis le début, qui subit depuis le début. Ouais. Mais alors là, elle a quelques-uns des épisodes les plus beaux, encore une fois, dans cette saison. Et c'est même elle qui va être presque un lanceur d'alerte absolument magnifique dans la série.
Lanceur d'alerte, carrément. Lanceur d'alerte et usufruit. On peut rerouter Perrine chez Julien Courbet, s'il vous plaît. Merci.
Non, bah, encore une fois, magnifique Helena Bonham Carter. Hein.
On l'aime, elle est extraordinaire.
Et je reviens juste ce que tu disais sur le côté tabloïd, c'est-à-dire que les tabloïds, ils sont pas vraiment présents dans la série, mais toute la série respire le tabloïd, en fait. C'est-à-dire que la manière dont sont traités les événements, c'est déjà du tabloïd. Quand on est en Australie, la manière dont on va regarder le couple qui se fait se défait au fur et à mesure, c'est tabloïd. Tout est petits chuchotements et petites phrases en fait en permanence, que ce soit les ministres qui balancent des petites phrases sur la première ministre en fait finalement, que ce soit Charles et Diana ensemble, et même la famille royale, cette espèce de nœud familial, ouais. C'est que les femmes, le conseil féminin qui fait que discuter, s'appeler, se balancer des rumeurs en disant à ce qui paraît c'est ceci, à ce qui paraît c'est cela.
Charline et moi, quand on parle de toi, Perrine.
Je le sais, sauf que moi, j'ai mis des micros. Mais le truc, c'est ça, en fait. C'est cette idée que la people, ce côté people, le côté presse, a vraiment pris sa place, même au sein du château, en fait.
Précisons que c'est une série tabloïde, mais qui serait plutôt prise, non pas par des paparazzi, mais par Hélène Von Unverth, parce que c'est encore une fois d'une beauté formelle assez spectaculaire, cette série. Hein. Point spécial pour la garde-robe de Diana. Pardon,
je suis en train de me faire les robes moi-même en couture. Là,
moi, je me suis rajouté des shoulder pads à chacune de mes tenues. C'est hyper beau.
C'est encore une fois extrêmement bien mis en scène. Hein. Pardon, mais moi, chaque saison, c'est...
Puisqu'on est sur les tabloïdes, est-ce qu'on peut soulever le questionnement du dernier épisode? Alors, c'est un spoiler, je précise, spoiler. On est d'accord que le dernier épisode nous sous-entend quasiment que c'est le prince Philippe qui a tué Diana. Il la menace à la fin. On est d'accord, Perrine?
Il est dangereux. Il fait peur.
Il lui parle et il y a un Tobias Menzies.
Il est beau, mais il fait peur. Enfin, il est beau.
C'est vraiment étrange parce qu'il y a une dernière scène entre Diana et prince Philippe. Et vraiment, on a l'impression qu'il la menace.
Non, mais surtout, c'est le retournement. Parce qu'en fait, au début, c'était presque son seul allié. Qui d'un seul coup en fait il compatissait avec elle puisque lui savait ce que c'était que d'épouser la couronne, et en fait d'un seul coup on a l'impression que lui-même a tellement intégré ce pouvoir qu'il condamne finalement toute tentative de sortie.
C'est très bizarre comme scène.
C'est ultra c'est très très étrange, on est très mal à l'aise en fait, on a l'impression
que dernier plan
va il va la planter quoi.
Ce dernier plan sur une photo où elle ne sourit pas, il y a vraiment un truc terrible, vraiment. Après, pour reprendre ce que Charline disait, moi, je suis quand même étonné du budget par épisode. Je pense qu'il y a le budget d'un épisode de Camping Paradis dans un épisode, tellement c'est impressionnant, le décor, les costumes.
Dans une tenue, je pense.
Dans une tenue.
Est-ce que vous êtes triste d'avoir dit au revoir à ces comédiens, parce que saison prochaine, c'est Balneuve, hein, on change tout le monde.
Balneuve.
Imelda Staunton, Elizabeth II, Jonathan Pryce, Philippe, Leslie Manville, Margaret, Dominique West, le prince Charles et Elizabeth de Bicky, Diana Spencer. On est toujours un peu triste, et quand ils t'annoncent le casting d'après, tu fais... Ouais, on a un peu envie de voir quand même.
Je pensais qu'ils allaient prendre Rowan Atkinson pour faire le prince Charles, j'aurais trouvé ça rigolo.
On comprend pas des masses de Dominique machin là, c'est Dominique West.
Il a filé un bifton, Charles. Il a clairement filé un bifton en disant par contre, vous me cassez des beaux gosses là. Josh O'Connor, on en parle, Josh O'Connor.
Ah ouais, les oreilles décollées, le nez machin là, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que.
Ça me fait le même effet que s'ils avaient casté Idriss Elba en fait. Et dans le rôle du prince Charles, Idriss Elba. Non, en fait.
Mais là, c'est vraiment Patrick Sébastien, j'ai hâte de le voir quand il va arriver avec le nez et les oreilles décollées. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Dominique West, en fait, ça n'a aucun sens. Mais Elizabeth de Bicky, oui, mille fois oui, cent fois oui pour Elizabeth de Bicky.
Même Imelda Staunton.
Non, mais en fait, il n'y a pas, à part le petit bémol Dominique West qu'on ne comprend pas et j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Moi, j'adore ce comédien.
C'est la question du comédien, c'est la question de la ressemblance. Hormis ça, on est quand même sur, encore une fois, un casting sublime comme C'est triste de quitter Olivia Colman, mais waouh, quoi, ce qu'il y a.
Et puis les années 90, c'est vraiment pour le coup, là, la période la plus connue, la plus tragique. on va voir l'arrivée de Dodi Al-Fayed. Qui va jouer Elton John? Qui va jouer Elton John?
Elton. Mais avec lui-même. Un effet numérique. Lui-même. Ouais.
Bah, Taron Egerton, pardon.
Mais... Taron Egerton, c'est très drôle.
Ça serait tellement bien.
Et vraiment, moi, j'ai il y aurait donc il y a une saison 5 et une saison 6, donc ouais. C'est-à-dire saison 6 les années 2000. Moi, je rêverais d'un truc, c'est que le dernier épisode se termine par le premier épisode de The Crown. C'est-à-dire que comment on se met à tourner la
comme
série.
Comme dans Scream, sur... tu veux dire un peu?
Comme dans Scream, il y aurait Neve Campbell qui arrive et la reine des crochets. Quel est ton épisode de The Crown préféré? Ce serait super, vraiment. Appelle-moi Peter Morgan, c'est des super idées.
Alors, ou pas, mais The Crown, saison 4 et les trois précédentes, c'est évidemment disponible sur Netflix. Et Renan Crowe, tu vas me chanter la virgule qui annonce les recommandations.
C'est les recommandations de We Love Series.
À toi, Perrine, qu'est-ce que tu nous recommandes?
J'ai une autre série qui est sortie aussi le 15 novembre, qui est une autre famille royale, mais plutôt des bas-fonds. C'est Gangs of London, en fait, qui est la série de Gareth Evans, qui retrace, on est dans un Londres presque Gotham, style Gotham, cosmopolite, le Londres de la pègre, dominé par deux familles, les Wallace et les Dumany. Et le chef des Wallace est tué, et à partir de là, c'est la foire à l'empoigne. Tout le monde va essayer de se courser pour savoir qui a tué Finn Wallace, mais aussi pour qui va reprendre le pouvoir, en fait, d'une certaine façon. C'est un peu Game of Thrones rencontre John Wick. C'est ultra, ultra, ultra violent. Ah non, mais c'est ultra violent, ça n'arrête jamais. Mais il y a quelque chose de très shakespearien aussi sur cette réflexion de la violence, de la famille, de l'ambition. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est absolument, absolument sublime. Et cette violence, elle est permanente, elle est changeante tout au long de la série, mais parce qu'elle agit comme un métalangage, en fait. Cette violence, elle raconte quelque chose des personnages, elle raconte quelque chose de leurs sentiments. Et moi, je trouve que c'est une des plus belles utilisations, déjà stylistique, parce que visuellement, c'est grandiose. Et moi, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues et des manières de tuer des gens que j'imaginais même pas. vous voulez pas savoir, et ça fait très, très mal. Mais au-delà de ça, j'avais rarement vu une telle utilisation de la brutalité, de la sauvagerie dans un principe narratif aussi fort, en fait. C'est brillantissime. Et il y a deux épisodes signés Xavier Jeance, donc Cocorico.
Très bien. Renan, ta reco?
Oui, oui, bah pendant que Perrine n'est que violence, n'est que sang, n'est que coup, moi je suis qu'amour, et on le sait dans cette émission. Donc moi je viens avec une série de Noël, une série qui va répandre l'amour. Et quand vous aurez fini The Crown, vous aurez envie de vous pendre. Donc je vous propose d'enchaîner avec une série sur Netflix qui s'appelle Dash et Lily, qui est vraiment sur le papier tout ce qu'on a envie en ce moment, c'est-à-dire c'est une rom-com adolescente en série de Noël. C'est l'histoire de deux ados qui se croisent à New York via un carnet laissé dans une sorte de librairie d'occasion, et en fait ils se donnent des défis et ils tombent amoureux sans se connaître. Ça cite Salinger et Joni Mitchell dans le premier épisode. C'est évidemment sucré comme jamais. Le personnage déteste Noël, l'autre elle adore. Il y a un petit chouchou qui ressemble à Timothée Chalamet et l'autre elle ressemble à Zoé Deschanel. C'est quirky, c'est tout mignon, c'est tout ça. Ça n'a aucun intérêt si ce n'est d'être charmant, et ça remplit parfaitement son office. Dash and Lily sur Netflix.
Voilà, bah c'est exactement de ça dont on a besoin en complément.
Parce que la violence de Perrine, là, qu'est-ce que c'est que ce mouvement?
Je suis désolée, mais j'ai fait un petit lien avec The Crown, puisqu'en fait, on sent dans la série qu'il y a une espèce de pouvoir supérieur dans Gangs of London. Et ma théorie, c'est qu'en fait, celle qui mène le game, c'est la reine. Je dis rien, mais quand vous regarderez la série, vous aussi, vous penserez que finalement, celle qui mène le game, la puppet master, c'est The Queen. Donc finalement, on n'est pas loin de The Crown.
J'ai bien aimé le petit son qui accompagnait le... Ouais.
Très étrange.
Il y a peu de gens qui peuvent l'atteindre à part Céline Dion et moi.
C'est pas faux. Merci beaucoup à tous les deux, mes petits chatons. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez donner votre avis sur The Crown et sur la prestation de Renan Crowe sur le compte Instagram de We Love Cinéma. Faut toujours te... Voilà. Et après, on peut toujours sur Twitter, hashtag...
Molito,
hein, voilà, pour tous les retours.
Et puis, évidemment, dénoncer la violence de Perrine Ganson, scandaleuse, cette violence scandaleuse, vraiment.
Sous le Molo Molito, hashtag Molo Molito Violence. C'est un nouveau, on peut tenter un nouveau truc.
Abba, Perrine Ganson. Hashtag non à la violence, Perrine.
Abba, A de BA.
A de BA, évidemment.
Évidemment. C'est long comme hashtag, non? C'est très, très long.
C'est long, c'est long. Mais un jour, il y aura vraiment hashtag, tous les hashtags de Molo Molito.
Alors, d'ici la mise en ligne de tous les hashtags de cette émission, retrouvez We Love Series sur We Love Cinéma et sur tous les agrégateurs de podcasts. Salut.
On vous embrasse.
Bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.